Quatrième chapitre.
Premières armes portatives. L'arquebuse.
Le poids des premiers canons à main nécessitait l'emploi de deux hommes pour les porter pendant la marche. La pièce était alors installée sur un chevalet à même le sol et on la chargeait avec des pierres ou des morceaux de fer. Le poids de ces armes et l'impossibilité de leur donner une inclinaison convenable pour ajuster le tir rendaient ce dernier très incertain. Pour remédier à ces inconvénients, on diminua dans un premier temps la longueur et l'épaisseur du tube, puis on l'enchâssa sur une couche de bois que l'on nomma fût. Pour le manier plus facilement, le fût se terminait par une pièce de bois recourbée qui prit le nom de crosse, à cause de sa forme recourbée, puis on plaça un axe au niveau du centre de gravité de la pièce pour servir d'axe de rotation. L'arme prit le nom d'arquebuse. Elle reposait désormais sur une fourchette ou croc, fixée elle-même sur un trépied permettant de faire varier l'angle d'inclinaison. Cette arme au calibre de 8 balles à la livre ne laissait au soldat qu'une main de libre pour la soutenir, l'autre étant employée à présenter la mèche sur la lumière située au-dessus de l'arme. Le manque de maniabilité de cet engin limitait son utilisation aux guerres de siège. Vers 1480, on diminua encore la longueur et l'épaisseur de ces armes, et de 8 balles à la livre, leur calibre passa à 10, mais leur poids ne permettant toujours pas de les utiliser sans appui, on se servit pour mettre en joue d'une béquille ou fourchette sur laquelle on appuyait le bout du canon. C'était l'arquebuse à forquine. Pour faciliter sa mise à feu, la lumière fut percée sur le côté de l'arme, ce qui obligea, pour maintenir le pulvérin, la mise en place près de la lumière d'un petit dispositif qui prit le nom de bassinet. Ces armes si lourdes et si encombrantes furent longtemps considérées comme des objets de curiosité n'ayant d'autre mérite que celui de faire du bruit. Cependant, avec un perfectionnement toujours croissant, elles résistèrent à tous les préjugés, et vers la fin du règne de Louis XII, l'arquebuse devint une arme commune dans les armées françaises. L'usage de l'arc fut aboli, mais on conserva encore l'arbalète, car la force de pénétration de cette arme lui permettant de traverser à une distance de 150 ou 200 pas les armures, cuirasses, était pratiquement équivalente à celle des arquebuses. La difficulté de viser en mettant le feu à la charge avec la main tenant la mèche allumée tandis que l'autre immobilisait l'arme contre l'épaule fit chercher le moyen de porter le feu à la charge à l'aide d'un mécanisme simple et commode. Les Espagnols, qui avaient mesuré l'importance de posséder ce nouvel armement, s'étaient employés à l'améliorer. Ils inventèrent un nouveau système de mise à feu qui allait révolutionner les armes portatives. La mèche incandescente, que le tireur faisait suivre pour allumer la poudre d'amorce, avait été abandonnée au profit d'un mécanisme intégré à l'arme et offrant la même finalité. La mèche était placée dans une pince longue et recourbée appelée serpentin qui sous l'action du doigt sur la détente fixée sous le fût, basculait de manière à porter la mèche sur le bassinet qui contenait la poudre. Il ne restait plus à l'arquebusier de campasser la mèche, c'est-à-dire de l'ajuster et d'activer sa combustion avant de presser sur la détente. Ce système fut désigné sous le nom de platine à mèche. Il reçut de nombreuses améliorations dont un ressort de gâchette permettant d'éloigner le chien du bassinet aussitôt qu'on cessait de presser sur la détente. Le bassinet fut équipé d'un couvercle, permettant de placer dans l'arme la poudre d'amorce longtemps à l'avance, opération impossible avec la couleuvrine. Le canon fut muni d'un guidon pour faciliter le pointage. La monture reçut une forme plus pratique et fut pourvue de la baguette. Le mécanisme de cette platine évoluera de telle sorte que le ressort initialement prévu pour éloigner le chien du bassinet agisse en sens inverse, c'est-à-dire en exerçant une pression contre le chien de telle sorte qu'une fois libéré de son cran d'arrêt par l'action de la gâchette, il s'abatte sur le bassinet.
La platine à rouet.
L'ensemble de ces améliorations favorisait la rapidité du tir et sa justesse. L'arme de plus petit calibre et moins longue était désormais tenue à deux mains. Elle présentait cependant plusieurs défauts dont ceux concernant la mèche servant à la mise à feu qui ne cessait de se consumer entre deux tirs, ou de s'éteindre par temps de pluie ou bien encore de dévoiler de nuit la présence du soldat. Ce mécanisme rudimentaire fut bien vite remplacé par un système imaginé en Allemagne vers 1517 et dont le principe de mise à feu ne consistait plus à utiliser le feu continu d'une mèche incandescente, mais celui créé suivant la volonté du tireur par d'un dispositif générant des étincelles. Ce nouvel ensemble sera désigné sous le nom de platine à rouet. Dans cette platine, la mèche était supprimée et l'inflammation de la poudre était obtenue par le frottement d'une pierre à silex, elle sera remplacée plus tard par un alliage métallique, fer et antimoine, contre une petite roue d'acier cannelée sur son pourtour. Cette roue était actionnée par un ressort en spirale que l'on remontait à l'aide d'une clé comme l'on remonte celui d'une horloge. L'action du doigt sur la détente libérait le ressort qui, en se détendant, transmettait à la roue un vif mouvement de rotation. Avant de presser la détente, le chien, entre les mâchoires duquel se trouvait le silex, était abaissé sur les cannelures du rouet communiquant avec le bassinet. Il était maintenu dans cette position sous l'action d'un ressort. Par friction avec la pierre ou l'alliage, il se produisait une gerbe d'étincelle qui mettait le feu à la poudre d'amorce, le pulvérin, contenu dans le bassinet. L'invention de ce système, comme tous ceux qui suivront, donnera lieu à une terminologie particulière qu'il fallut inventer. Ainsi, les deux plaques de fer entre lesquelles était fixé l'alliage fut appelé chien, car il figurait grossièrement les mâchoires de l'animal. Si ce mécanisme présentait une réelle avancée technique, il n'en présentait pas moins plusieurs défauts, dont celui de se dérégler fréquemment. De plus, la petite pièce d'alliage métallique s'usait rapidement et nécessitait d'être remplacée fréquemment. C'est pour cela que l'arquebuse à mèche, malgré son poids plus important que celui de l'arquebuse à rouet, fut longtemps préféré à la nouvelle venue. Le premier corps d'arquebusier à cheval fut créé en France en 1537 vers la fin du règne de François Ier. À cette époque, ces armes étaient encore désignées sous les noms de arquebute, arquebuse, échaopette, escopette.
Mousquet et mousqueton.
Ce fut encore en Espagne que l'on perfectionna l'arquebuse et qu'on en fit une arme un peu supérieure. Pour permettre son usage dans la cavalerie, on réduisit encore ses dimensions et on l'équipa d'une crosse très recourbée que les cavaliers appuyaient sur leur poitrine pour tirer. On les appela pour cette raison poitrinale ou pétrinale. Cette arme d'un calibre inférieur à l'arquebuse et plus facile à fabriquer, devint d'un usage plus général y compris dans l'infanterie, et finit par supplanter l'arquebuse sous le nom de mousquet dès le début du XVIIe siècle. Il sera introduit en France sous Charles IX. Il y avait des mousquets à mèche et d'autres à rouet. Cependant, les premiers mousquets encore très lourds nécessitaient toujours l'emploi de la fourquine. Au fur et à mesure des progrès métallurgiques, ils seront allégés pour que l'on puisse finalement les utiliser simplement en appui contre l'épaule. Les mousquets se déclinaient en plusieurs calibres, de 12 à 16 balles à la livre pour celui des places et de 20 à 22 pour celui de campagne. L'expérience ayant été à l'origine des choix qui prévalurent pour la réalisation de ces armes, la longueur du canon fut fixée vers 1650 à 44 pouces, 1,18 mètres. Le nom de mousquetaire fut donné aux premiers cavaliers armés de mousquets. Les premiers mousquetaires français parurent en 1572. Ces soldats portaient la bandoulière à laquelle pendaient par des cordons, des étuis de cuir, de bois ou de fer blanc contenant les charges de poudre faites d'avance. Les deux bouts de la bandoulière se réunissaient sur le côté droit, où ils supportaient le sac à balles et le flasque pour le pulvérin d'amorce. L'armement d'un mousquetaire se composait d'un mousquet, d'une épée, de la bandoulière, courroie de cuir conçue pour le transport des munitions, que l'on porte sur l'épaule gauche et se termine sur la cuisse droite, en soutenant le sac à balles, du baudrier, courroie de cuir qui se pose sur l'épaule droite et se termine sur la cuisse gauche et sert à porter l'épée, de la bourse, des charges et de la mèche. Suivant le règlement militaire de l'époque, le tir au mousquet se faisait de la manière suivante: poser la crosse du mousquet contre l'estomac, un demi-pied au-dessous du menton, la main gauche sous le faste, au défaut de la baguette, le pouce de la droite, 4 ou 5 doigts derrière la culasse, et les autres doigts de la main sous la clé, pour faire jouer le serpentin quand on veut tirer. Le mousquet restera en usage jusqu'en 1680, époque où l'on arma de fusils quelques corps d'élite. Il sera totalement supprimé en 1703, lorsque toute l'infanterie reçut des fusils. Les armes adoptées pour l'infanterie étant peu commodes pour les cavaliers, on fit à leurs usages des mousquets plus petits et plus légers qu'on appela mousquetons. L'escopette était une espèce de mousquet très allégé qui fut utilisée sous Henri IV. Le mousqueton, comme son nom l'indique, est un diminutif du mousquet. Cette arme uniquement destinée à la cavalerie se déclina par la suite en trois modèles qui, suivant leur dénomination, étaient affectés à la cavalerie de ligne, à la gendarmerie et aux hussards.
Le pistolet.
En 1694, le mousquet à mèche était encore en usage parmi les troupes françaises. Cependant, le mousquet était une arme encore bien lourde pour la cavalerie. La nécessité d'alléger cette arme amena l'invention du pistolet, ainsi nommé suivant les uns parce qu'il fut fabriqué pour la première fois à Pistoia, Italie, suivant les autres parce que le canon avait le diamètre exact de la pistole. Le pistolet n'était autre chose qu'un mousquet de petit calibre dont la crosse, ne devant pas être épaulée, devait permettre de faire feu à bras tendu. D'un calibre de 5 lignes, leur longueur variait d'un pied à un pied et demi. Comme le mousquet, il fut à son tour équipé du système de mise à feu à rouet. Cette technologie permit de mettre en œuvre des unités combattantes d'un genre nouveau. Il fut tout d'abord adopté en Allemagne qui en équipa son infanterie. La cavalerie ne put en faire usage qu'à partir du moment où l'on ne fut plus obligé de porter le feu à la charge par l'intermédiaire d'une mèche allumée. Elle constitua alors des unités de pistoliers appelées reîtres. À l'opposé des charges puissantes de la cavalerie, les escadrons de reîtres étaient organisés sur plusieurs lignes. Arrivés à portée de l'ennemi, la première ligne tirait, puis dégageait l'espace pour permettre à la seconde ligne de tirer à son tour et ainsi de suite. Cette technique fut adoptée en France qui eut son corps de pistolier en 1590, mais l'usage de cette arme dans la cavalerie française remonte aux années 1540. Ces pistolets se reconnaissaient à leur grande dimension, à la forme arrondie de la crosse et à l'angle très prononcé que faisait la crosse avec le canon. On les appelait pistolets d'arçon ou demi-arçon, suivant leur longueur parce qu'on les attachait à l'arçon de la selle. Plus tard, ils seront transportés dans des étuis en cuir fort, appelés fontes, et fixés de chaque côté du pommeau de la selle. La longueur du canon des pistolets a beaucoup varié. On lui a donné jusqu'à 65 cm de longueur. En France, elle fut d'abord de 32 cm puis, jusqu'en 1777, elle fut comprise entre 8 pouces 6 lignes, soit 23 cm, et 9 pouces, soit 24,4 cm. Elle fut ensuite réduite à 7 pouces, 19 cm, puis augmentée de 4 lignes à partir de 1816 pour atteindre 20 cm. La longueur de 34,8 cm fut retenue pour le pistolet de cavalerie qui devait être placé dans la fonte de la selle. Le pistolet de gendarmerie, ne devant être utilisé qu'à de petites distances, et dans des circonstances qui permettaient d'employer sans inconvénient un calibre différent de celui des armes de guerre, son calibre fut fixé à 26 au demi-kilogramme, correspondant à une balle de 1,47 cm de diamètre. Le canon, au calibre de 1,52 cm et d'une longueur de 12,9 cm, lui permettait d'être employé comme pistolet de poche. Le premier modèle arrêté par le ministère de la guerre fut celui de 1763.
La carabine.
Le canon des mousquets, se réduisant à un simple tube bouché d'un côté par une pièce nommée culasse, son mode de chargement et de tir ne pouvait s'effectuer que par l'autre côté, la bouche. Ainsi, afin de permettre au projectile de descendre dans le tube, il fallait que son diamètre soit légèrement inférieur à celui du canon. Cette différence se nomme le vent. La valeur à donner au vent des balles fera l'objet de nombreuses polémiques et discussions au cours des siècles, mais les arquebusiers avaient remarqué, dès le début du XXe siècle, qu'en diminuant sa valeur, on augmentait la précision du tir et on améliorait la portée de la balle. En effet, l'observation avait permis de mettre en évidence qu'une balle d'un diamètre inférieur à celui du canon est soumise lors de sa poussée à une série de mouvements irréguliers qui la projettent contre la paroi du canon, lui imprimant ainsi une série d'oscillations qui empêchent de prévoir sa direction en quittant la bouche. Ce phénomène est dû à conjugaison de deux poussées, celle exercée sur la balle dans le sens de l'axe du canon, et celle exercée par l'échappement des gaz dans l'espace laissé entre la balle et la paroi du canon. Pour supprimer ce défaut, les arquebusiers décidèrent d'éliminer le vent. Mieux guidée, la balle soumise qu'à une seule poussée devait en principe conserver sa trajectoire et la précision du tir devait être améliorée. On expérimenta le tir à balle forcée, c'est-à-dire en utilisant des balles dont le diamètre était du même calibre que celui de lame du canon. Pour charger l'arquebuse et pousser la balle au fond du canon, on utilisait une tige de fer et un maillet. Le résultat de ces expériences fut décevant, et les arquebusiers comprirent que l'imprécision des tirs obtenus était due à la friction de la balle dans l'air qui, dès sa sortie du canon, ne tardait pas à produire de notables déviations. Les multiples essais réalisés dans ce domaine mirent en évidence un autre défaut. Le forçage de la balle avait pour conséquence de détériorer l'âme du canon dont l'acier était de mauvaise qualité. Cependant, les armuriers ne tardèrent pas à tirer parti de ce désavantage. Ils remarquèrent que les rayures formées sur les parois internes des canons par le frottement des balles se prêtaient mieux au chargement à balles forcées et les nombreuses expériences effectuées avec ces armes ainsi rayées avaient également révélé que ces stries augmentaient la justesse du tir. De ces observations, les arquebusiers allemands pratiquèrent vers 1500 des rayures droites dans l'arme, mais elles furent vite abandonnées au profit de rayures hélicoïdales dont on avait remarqué qu'elles augmentaient la portée et la justesse de l'arme. Comme la science de cette époque ignorait la cause d'un fait si remarquable, et ne pouvait par conséquent en tirer le meilleur parti, chaque fabricant se mit à produire des rayures, faisant varier au hasard de leur goût et fantaisie, leur nombre, leur forme et leur inclinaison. On comprit par la suite que le sillon hélicoïdal imprimait au projectile un mouvement de rotation sur lui-même lui permettant de conserver une trajectoire dans le sens exact de l'axe du canon et éviter ainsi qu'il n'en soit dévié à cause de sa résistance dans l'air. Les armes confectionnées d'après ces principes reçurent le nom de carabine. Il semble que les premières arquebuses rayées firent leur apparition en France vers 1550, mais c'est à Louis XIV que nous devons l'introduction de ces armes dans les troupes françaises. Après en avoir mis à l'essai dans quelques compagnies vers 1676, ce prince rendit le 10 décembre 1679 une ordonnance introduisant définitivement cette arme dans la cavalerie. Les premiers utilisateurs de la carabine prirent le nom de carabin, puis sous Louis XV le nom de carabinier prévalut. Les premières carabines données à la cavalerie avaient des platines à rouet, mais dès 1678, elles reçurent les platines à silex. Malgré cela, leur chargement à la baguette de fer et au maillet restait inchangé, ce qui la fit disparaître des champs de bataille, mais pour un temps seulement.
La cartouche.
Les difficultés relatives au chargement de toutes ces armes devaient également donner lieu à de notables améliorations. Les mousquets et arquebuses se chargeaient par la bouche du canon, en plaçant d'abord la poudre, puis une bourre, enfin la balle et l'on bourrait le tout au moyen d'une baguette. Dans ses débuts, la mesure des charges de poudre se faisait au moment même de tirer. Dans son traité sur les armes et machines de guerre de 1678, le capitaine Gaillat du régiment de Champagne explique la façon de mesurer la poudre, mettre la balle dans le creux de la main, y verser la poudre dessus, tant que la balle soit couverte et ne paroisse plus. Pour satisfaire à l'exigence de cette approximation, on plaçait à côté des soldats des barils de poudre, dans lesquels chacun allait puiser, mais cette manière d'opérer fut vite abandonnée, le feu et la poudre ne faisant pas bon ménage, on préféra mesurer les charges à l'avance. Le volume de poudre nécessaire à chaque tir fut alors placé dans des étuis en bois ou de métal et chaque soldat les transportait suspendus à leur baudrier. Chaque homme portait 12 charges, dont une de poudre beaucoup plus fine nommée pulvérin, renfermée dans une poire, servant pour la mise à feu. Un sac pour transporter les balles, nommé gibecière, complétait l'ensemble qui portait le nom de fourniment. Suffisant dans les premiers temps, cet approvisionnement nécessita d'être augmenté, sans pour autant qu'il devint une cause d'embarras. C'est ainsi qu'en 1644, l'armée française abandonna ses étuis au profit d'un conditionnement beaucoup plus léger et bien moins encombrant qui prit le nom de cartouche. La charge de poudre nécessaire pour un tir était alors contenue, avec ou sans balle, dans une enveloppe en papier qui avait été roulée sur un mandrin pour lui faire prendre une forme cylindrique. Le papier servant à confection des cartouches ayant été amélioré, il entra tout naturellement dans le processus de bourrage de l'arme. Les cartouches étaient alors composées de leur enveloppe de papier contenant la balle et la poudre convenablement dosée. Pour charger son mousquet, le militaire déchirait avec ses dents l'enveloppe de papier côté poudre, versait cette dernière dans le canon, puis faisait entrer le papier et la balle, le papier faisant office de bourre en s'appliquant sur la poudre. Le tout était ensuite bourré à l'aide d'une baguette. Les cartouches ne furent plus suspendues au baudrier, mais placées dans une petite boîte en bois recouverte de cuir et agencée pour les recevoir avec un tire-balle et un tournevis. Comme la gibecière avait remplacé le carquois des archers, elle fut à son tour remplacée par un coffret que l'on nomma giberne, et qui fut employé dans nos armées dès 1630. Les soldats la portaient dans le dos, suspendue par une banderole de buffle large de 2 pouces 10 lignes. Avec l'apparition du système à percussion, la cartouche fut adaptée au diamètre de l'arme. Elle était alors constituée d'un cylindre de carte, de papier ou de toile rempli de la poudre et de la balle émis au diamètre de l'arme dans laquelle elle devait entrer. La mise à feu était réalisée par la flamme générée par l'écrasement de la capsule de fulminate indépendante de la cartouche et que le soldat déposait sur la cheminée de la platine du fusil. Avec la mise au point du chargement par la culasse, et l'adoption par l'armée française du fusil chassepot, nommé fusil modèle 1866, on vit apparaître la cartouche dite amorcée, c'est-à-dire intégrant la capsule de fulminate, qui à cette occasion changea de forme pour être adaptée au nouveau système de percussion. La France conservait la cartouche de papier dit cartouche combustible. À la suite de la campagne de 1870 à 1871, une enquête fit ressortir la nécessité d'améliorer l'armement et plus spécialement les cartouches modèle 1866. Cette cartouche avait le défaut de se détériorer dans les transports, notamment dans les gibernes, et ne se consumait pas totalement, laissant des résidus dans le canon. Les résultats des études menées sur cette cartouche par une commission instituée en septembre 1872 reconnurent l'impossibilité de concilier ces deux impératifs. La solution la plus appropriée consista à substituer à la cartouche combustible la cartouche à étui métallique. À la suite d'expériences menées par divers corps militaires, on fixa le calibre de cette nouvelle cartouche à 13,8 mm. Elle sera mise en service en 1874 à l'occasion du nouveau fusil modèle 1874 dit système Gras.
Le fusil.
Après 3 siècles de tâtonnement, de développement et de perfectionnement, une invention vint modifier profondément la conception des armes légères. La nouveauté du système consistait à créer une étincelle, non plus par le frottement d'une roue d'acier comme dans la platine à rouet, mais par le choc d'une pierre à feu ou silex contre une pièce d'acier nommée batterie. Le principe en est le suivant. Lorsque l'on appuie sur la détente, la noix pivote, libérant le chien de son cran d'armement. Sous l'action d'un ressort, le chien pivote et s'abat violemment. Dans sa trajectoire, le silex frotte sur la batterie créant une gerbe d'étincelle. Le choc produit sur cette pièce et sa forme l'oblige à se soulever, laissant apparaître le bassinet dans lequel on a préalablement disposé le pulvérin, qui s'enflamme au contact des étincelles. Pratique et rapide, cette platine inventée vers 1630 fut d'abord placée sur l'arme. Elle offrait malheureusement l'inconvénient de se détériorer assez rapidement. Les armuriers de l'époque entreprirent de protéger ce mécanisme en le faisant entrer à l'intérieur de l'arme. Après quelques modifications, parut le fusil, ainsi nommé, car ce mot vient de fossile, formé de focus qui signifie une pierre à feu. Il fut adopté par l'armée française en 1670. Une ordonnance du 6 février 1670 imposait que le canon de ces armes dut avoir 3 pieds 8 pouces depuis la lumière du bassin jusqu'au bout du canon, qu'il devait être au calibre de 20 balles à la livre. La pierre à fusil était considérée bonne si elle supportait 50 actions sans être hors service. Cependant, cette adoption ne se fit pas sans grande difficulté de la part des généraux de Louis XIV qui tenaient bon pour le mousquet et voulaient à tout prix conserver le mécanisme du rouet. Leur entêtement reposait sur l'idée que le fusil plus léger que le mousquet ne pouvait produire que des effets forcément moins redoutables. Le fusil s'imposa lentement au sein de l'armée. Ce qui activa le plus son adoption dans les armées européennes fut l'invention de la baïonnette. Muni de cet accessoire, le fusil constituait un engin terrible, car il devenait tout à la fois arme de jet et arme d'ast. Dès lors chaque fantassin valut 2 hommes, le piquier et le fusilier. Les premières baïonnettes étaient des lames d'une 30aine de centimètres que l'on fichait dans une hampe de bois et que l'on enfonçait dans le canon du mousquet. En 1678, les fusils des grenadiers furent armés de cette baïonnette. Elle fut modifiée un peu plus tard et fabriquée dès 1701 avec une douille qui se fixait autour du canon et une lame coudée afin de permettre aux soldats de tirer même si la baïonnette était en place. En 1692, chaque compagnie de fantassins possédait autant de fusils que de mousquets. En 1700, le fusil avait remplacé définitivement le mousquet. Lorsque l'infanterie fut entièrement armée de fusils à baïonnette, le feu acquit une telle importance qu'il devint son principal moyen de combattre, et en 1703, les armes d'aste furent entièrement supprimées dans les armées françaises. Les fusils adoptés en 1703 par toute l'infanterie étaient très imparfaits. Ils dérivaient du mousquet à mèche dont le canon d'un mètre 20 et de longueur était au calibre de 20 à la livre. Leur système de mise à feu présentait de nombreux défauts, au point que quelques-uns étaient équipés du double mécanisme de la mèche et de la pierre. Au cours du XVIe siècle, on s'attacha à faire disparaître ces divers inconvénients et l'on finit par mettre au point une arme beaucoup plus fiable. Le premier modèle réglementaire de ce fusil que l'on destina à l'infanterie date de 1717. Cette arme recevra 11 améliorations correspondant aux 11 millésimes suivants, 1728, 1746, 1754, 1763, 1766, 1768, 1770, 1771, 1773, 1774, 1777. Ce dernier modèle reçut quelques corrections jusqu'en 1822, date à laquelle il fut progressivement remplacé par une nouvelle arme, le fusil à percussion.
Les fulminates.
Si durant toute cette période les progrès des armes portatives ont été dus essentiellement aux arts mécaniques, les découvertes faites par Pierre Boulduc à partir de 1699 sur les composés chimiques allaient accélérer le phénomène. Ces travaux seront suivis par ceux de Nicolas Lemery qui fit sur le même sujet d'importantes recherches de 1712 à 1714, mais c'est à Bayant, alors pharmacien en chef des armées de Louis XV que l'on doit en 1774 une extraordinaire découverte, le fulminate de mercure et ses propriétés explosives. Il faudra cependant attendre les travaux de Fourcroy et de Vauquelin, et surtout ceux de Berthollet entrepris en 1788, pour remplacer le salpêtre de la poudre à canon par le chlorate de potasse. L'attention des chimistes se tourna alors vers la découverte de Bayan. Berthollet avait fait la cruelle expérience de l'instabilité de ces mélanges à base de chlorate de potassium. À la suite de l'explosion de deux fabriques ayant entraîné la mort de plusieurs ouvriers, il reprit l'étude des fulminates et découvrit l'argent fulminant. Ce sel extrêmement instable ne sera utilisé que pour les feux d'artifice, mais sera à l'origine de l'engouement d'un grand nombre de savants qui s'appliquèrent à rechercher de nouvelles compositions fulminantes. L'anglais Howard parvint en 1800 à préparer une poudre extrêmement explosive à base de fulminate de mercure, qui présentait enfin toutes les qualités requises pour être employée dans les armes à feu, et remplacer ainsi la poudre d'amorce. Ce mélange avait l'avantage d'être sans action sur le fer tandis que ceux précédemment inventés étaient très corrosifs. La mise au point de ce mélange fut à l'origine de l'invention d'un autre mécanisme de mise à feu, le système à percussion. L'armurier Lepage eut alors l'idée de substituer au système de mise à feu de la poudre, jusqu'ici réalisé par les étincelles d'un silex, un système fondé sur la propriété des composés fulminants de s'enflammer par le choc. Les recherches et les travaux entrepris à ce sujet devaient durer 28 ans avant de conduire à une solution complète.
Le système à percussion.
Les premiers essais de platine à percussion remontent à 1786. Après plusieurs essais, l'armurier Poli proposa en 1812 un autre modèle de fusil en s'inspirant du fusil à silex. Il supprima l'ancien système de la batterie et le remplaça par un tube nommé cheminée communiquant avec la lumière. Un petit marteau de forme recourbée fut mis en lieu et place du chien des armes à silex. La mise à feu se faisait par le choc de ce petit marteau sur un grain d'amorce que l'on posait avec précaution sur l'orifice supérieur de la cheminée. Ces premières amorces étaient de simples boulettes, enduites de cire et de vernis, que l'on déposait dans le bassinet pour être frappées par un percuteur. De son côté, Julien Leroy proposait un système similaire avec chargement par la culasse. Ces systèmes souvent modifiés présentaient de nombreux inconvénients. L'explosion produisait un fort crachement de cire ou de vernis qui rendait le tir très incommode pour le tireur et encrassait l'arme. L'amorce, simplement posée sur la cheminée, s'échappait souvent sans qu'on s'en aperçût, ce qui produisait de nombreux ratés. Ils furent rejetés en 1820. Pour supprimer ces défauts, on enferma le fulminate dans des capsules de verre, mais ces enveloppes fragiles et d'un maniement dangereux furent abandonnées lorsqu'un armurier anglais Joseph Heggess imagina en 1818 de placer la composition fulminante au fond d'une petite cuvette en cuivre rouge. La capsule était inventée et importée un an après en France. Quoique minime en apparence, cette invention détermina l'application du système percutant aux armes de guerre. La mise au point de cette capsule en cuivre rouge et son remplissage furent délicats et l'explosion des fabriques d'amorces fulminantes était chose commune. Tous les projets du système percutant furent élaborés en les combinant, pour les armes de guerre, avec le chargement par le tonnerre, mais ils furent rejetés à cause de leurs complications, ou de leurs défauts de solidité, ou tout simplement parce qu'ils présentaient un danger pour l'utilisateur, dû à une obturation incomplète de la partie postérieure du tonnerre. On se résolut à développer le système percutant sans changer le mode habituel de chargement. En 1822, l'armurier Latura proposa un premier projet qui fut suivi de nombreux autres, mais ne donnait pas satisfaction pour équiper les armes de guerre. Après des siècles de perfectionnement, le fusil avait atteint un niveau de sophistication important. Les arts métallurgiques avaient permis la réduction notable de son poids, plus besoin d'être à deux, ni d'appui pour son utilisation. La rectitude des canons et la maîtrise de leurs rayures en avaient fait des armes précises. Les accidents dus à la poudre avaient été en partie jugulés par l'invention de la cartouche. Le système de mise à feu avec l'introduction des composés fulminants l'avait débarrassé de mécanismes encombrants et peu fiables. Malgré tous ces progrès, le chargement de l'arme demeurait un véritable point noir. Dès Charles X, tous les inventeurs de génie allaient s'atteler à ce problème qui allait faire l'objet d'une grande bataille d'idées et d'innombrables brevets.